Bonjour. Entre guillemets bonne littéraire, j'ai un problème de vocabulaire, moi. Je fonctionne avec les catégories artistiques que l'on m'a enseignées, même si je suis amenée, comme tout le monde, à les bousculer par le biais notamment de l'art, des arts contemporains. Et j'ai été très intéressée par votre nouvelle, par la catégorisation que vous nous avez proposée tout à l'heure, art immédiat, art média. Et nous, dans les programmes officiels, on a la notion d'art vivant. Or, un art vivant, c'est un art qui est justement incarné par un acteur, donc par exemple le théâtre. Lequel théâtre vous avez classé, si j'ai bien compris, plutôt du côté des arts immédiats? Voilà, donc je trouve que tout est un petit peu du coup bousculé, enfin c'est justement très intéressant. Et dans la notion d'art vivant, qui dit vivant, ça voudrait dire qu'il y en a deux morts. Et on aurait mis, selon ces catégories, du côté des arts entre guillemets morts, ceux qui sont sur support, mais qui sont du coup du côté des arts médias. Enfin, c'est un peu confus parce que j'ai pas eu le temps de problématiser, de réfléchir, mais ça me donne tout un lot de questions autour du vocabulaire et des représentations forcément qu'il y a derrière.
Bien, moi je dirais que c'est pas confus du tout et que c'est même, vous mettez le doigt là où ça fait mal d'une certaine manière. Et on s'est un petit peu posé la question de cette idée des arts vivants, et voilà, parce que c'est bien de parler des arts vivants, et effectivement, ça laisse à penser que tout ce qui est fixé sur un support est mort. Et vous allez voir que, comme effectivement vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est que lorsque, avec Marc Favre, nous avons débuté nos activités de musique électroacoustique il y a donc bien longtemps, c'était en 75, 76, quelque chose comme ça, et on sortait à peine du lycée, on se posait déjà ces questions-là, parce que à l'époque, on avait très vite fait de nous dire que la musique électroacoustique, qui utilisait la bande magnétique, était donc une musique en conserve. Comme le cinéma aurait pu être aussi un art en conserve ou la photographie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé notre boutique le GMVL, c'est-à-dire le groupe Musique Vivante de Lyon, alors que précisément nous faisions de la musique en conserve. Mais nous voulions mettre surtout l'accent sur le fait que nous étions très jeunes et vivants. Et que la musique que nous faisions, c'était la musique des gens qui étaient vivants et pas la musique vivante de gens qui souvent sont morts. Donc on était déjà en train de se poser ce type de questions. Et l'autre endroit où ça fait mal, c'est que c'est pas très facile non plus, et il faut pas être réducteur en disant il y a là les arts de support et il y a là les arts immédiats. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous faire entendre cette dernière pièce. Parce que précisément, elle prend appui sur quelque chose que nous avons fait en live, c'est-à-dire vivant, en public, un jour, une improvisation électroacoustique avec Philippe Lefebvre. Il jouait de l'orgue, et nous avions des dispositifs avec des doubles lectures, des réinjections, des chambres d'écho, des trucs, et on spatialisait l'orgue dans tout l'espace, etc. Mais on faisait ça en direct. Donc à ce moment-là, on était immédiat. Et puis, nous avons enregistré ça. Et le simple fait de l'avoir enregistré en a fait un objet média que je me mets à travailler en musique électroacoustique. C'est-à-dire, justement, c'est devenu un objet, ce moment-là, qui se faisait de manière très vivante sous les yeux et les oreilles des gens. Une fois fixé, capté et fixé, il devenait un objet. Et ce qui allait lui donner son statut à cet objet, c'était la manière dont j'allais travailler avec. Ce qui est très souvent d'ailleurs la situation de la photographie. Ce qui donne un statut à une photographie, c'est très souvent la manière dont la photographie est encadrée et où on la regarde. Une photographie de reportage, de guerre, par exemple, dans un magazine d'actualité, c'est une photo de guerre. Encadrée au Palais de l'Évêché à Arles, pendant les rencontres photographiques, ça devient, cette même photo est une œuvre d'art. Et donc, c'est aussi son statut. Mais ce qui permet cette modification de statut, c'est le déplacement de l'objet. C'est parce que c'est devenu un objet et que cet objet, on va pouvoir le placer à des endroits différents et le valoriser de manière différente. Et on est loin de la chose photographiée. On ne regarde pas une personne, on regarde une photographie, par exemple.
J'avais une question, c'était au moment où vous parliez de l'interprète. Parce que on pourrait pas dire que les enceintes ou ce qui permet de diffuser, ce soit pour vous des interprètes ou en tout cas est-ce que ça vous prêtez attention au fait des supports de diffusion, je veux dire votre musique si je l'écoute sur mon portable, si je l'écoute sur ces enceintes là ou en mono, est-ce que ça a une implication pour vous ou...
Pour moi plus, pour vous oui. En fait, c'est pour vous que ça a une implication. C'est que tout simplement, vous allez voir une toute petite image comme ça, où vous allez avoir un tout petit son en mono qui ne va pas être aussi bon que celui qu'on peut avoir en concert ou que l'on a sur une très bonne chaîne stéréo. En fait, on a souvent d'ailleurs la double attitude en musique électroacoustique de faire une version pour le concert et une version pour le disque, une version discographique. Et effectivement, la manière après dont les gens écoutent, mais ça leur appartient. J'en suis désolé si l'écoute n'est pas bonne, mais je ne maîtrise pas la manière dont les gens écoutent le miroir des oiseaux. Une chose qui est quand même très importante, alors là, ça nous ramène très directement à la question des arts numériques et de l'utilisation de ces technologies numériques, c'est que depuis Charles Cros et les premiers enregistrements sonores jusqu'au seuil des années 90, nous avons constamment progressé et la haute fidélité est une chose qui n'a pas cessé d'avancer. C'est-à-dire, chaque année, on faisait mieux que la fois précédente. Chaque fois qu'on sortait un micro, il était meilleur. Chaque fois qu'on sortait un haut-parleur, il était meilleur. Et le son a avancé. Et depuis le tout numérique, le son recule à une vitesse foudroyante. Et nous n'avons plus de magasin de hi-fi. Nous n'avons plus les rayons à la FNAC qui étaient grands comme 5 fois cette pièce pour vous présenter des haut-parleurs et des chaînes hi-fi. Qui achète une chaîne hi-fi, d'ailleurs? La preuve en est. Voilà une bonne chaîne hi-fi. Et vous avez entendu vibrer les membranes de carton, etc. On recule actuellement sur la question de la qualité de la reproduction du son à une vitesse prodigieuse parce que nous avons mis en avant d'autres nécessités qui sont les nécessités de place, de mémoire, de vitesse de transfert, d'économie financière, etc., etc. Et donc, par exemple, après l'arrivée du CD, qui était en 44-1, tour d'échantillonnage assez moyen, c'est un peu la même histoire que la pixelisation des photos, on se disait oui, mais on va avoir des tours d'échantillonnage qui vont monter. Pas du tout. Ils ont baissé, ils baissent, et maintenant c'est le MP3. Qui est d'une qualité très inférieure. Et on ne cesse d'inventer des qualités inférieures et du son de moins bonne qualité. Donc ça, c'est vrai qu'on sait actuellement que lorsqu'on fait des musiques qui vont être véhiculées par des supports, on ne va pas maîtriser du tout la qualité de la reproduction. Et on sait que cette reproduction, elle est de moins en moins bien assurée. À tel point que maintenant, dans les studios, vous trouvez de chaque côté de la console des petits haut-parleurs pourris qui sont censés restituer ce que ça risque de rendre chez les gens qui vont écouter ça sur les haut-parleurs de l'ordinateur ou de la télé, ou etc.
Oui, moi je voudrais prolonger sur cette question de la médiatisation, là, de la diffusion. Vous avez pris l'exemple analogique de la production de masse de livres, 500 000 exemplaires avec 500 000 lecteurs potentiels confrontés à ce qui serait un produit. Je pense qu'il y a 500 000 exemplaires et la question que je voudrais vous poser, c'est par analogie donc à l'impression par exemple, c'est en quoi ça rétroagit sur votre propre production, c'est-à-dire, d'accord, l'évolution des médiums de transmission sont ce qu'ils sont, ça peut être de mieux en mieux et ensuite de moins en moins bien, bon, mais en quoi cela va modifier en amont votre production?
Mais ce que je mettais en avant, c'était pas forcément la quantité de duplication. C'était le fait que, par le biais d'un support, je pouvais m'adresser à une personne à la fois. C'est surtout ça qui m'intéresse. c'est surtout le fait, et ces choses peuvent être modifiées, par exemple, dans le fait qu'un auditeur risque d'être seul à écouter ça, ou il va écouter ça dans un espace domestique. C'est pas la quantité de reproduction, c'est cette idée-là. Et savoir que l'auditeur va écouter ça dans un espace domestique et pas dans une grande pièce, ça me permet, par exemple, si j'ai un texte, si j'ai une voix, de faire une voix proche, de faire une voix radiophonique, qui n'est pas cette voix-là que j'ai sur un plateau de théâtre quand je parle à 500 personnes que j'ai sous les yeux. C'est surtout toutes ces questions-là. Savoir que je sors un disque dont il est vraisemblable que les trois quarts des auditeurs vont l'utiliser au casque, ça me permet de penser que je parle aux gens à travers un casque et que je compose différemment. Voilà, c'est surtout ça. Je compose différemment. Et l'idée, par exemple, que dans l'écrit, dans un bouquin, si on sait qu'on s'adresse à une seule personne à la fois, même si ces personnes sont nombreuses à des endroits différents, on peut avoir des stratégies qui font que cette personne, bon lecteur, va s'identifier à moi, ou etc., etc. Voilà.
Ce que je voulais dire, c'est quand le médium piège la transmission. Et donc là, vous avez commencé à répondre, ça modifie votre production.
Bien sûr.
Parce que dans le livre, nous n'avons pas tous le même exemplaire en main.
Oui.
Et je trouve, j'aurais aimé que vous évoquiez davantage en quoi cela a modifié l'utilisation d'un médium, vous êtes quand même dépendant d'un médium de transmission, en quoi cela modifie votre message produit, enfin, la conception de ce message.
Si je puis
alors, je ne sais pas si on va rentrer dans ces considérations.
Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez continuer après
pendant le repas? C'est vrai que c'est voilà. Aussi très, très important.
Voilà. Je vais donner la parole, désolé, Constance, là, qui demande à poser une question. Et puis, après, on donnera la parole à Samuel. Et quitte à continuer le débat pendant le repas de midi, mais on a des contraintes horaires. Donc, dernière question, Constance.
Je vais plutôt intervenir comme en tant qu'auditrice un peu perturbée par ces questions, parce que en fait ma question ça va être à quelle question ça répond, le fait de, comme vous disiez, prendre un oiseau en photo pour en faire une sorte de photomaton, une fiche sonore. Je ne comprends pas en fait à quoi ça répond. Et je vous donne l'exemple de mon expérience. Je suis allée à un concert à Montréal où il y avait de Chalabi Effect. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est fait partie de la musique expérimentale, qui est aussi dans cette démarche de précision, de restitution et de, enfin, en tout cas, qui était très difficile à suivre, j'ai trouvé. Pourtant, je suis quand même. À l'écoute de toutes ces questions, j'étais très patiente. Ce sont des gens qui ont un souci de précision extrêmement fort. Par contre, ils nous ont bien agressé les oreilles avec du son vraiment trop, trop fort. Et par contre, il y avait Volcanoes the Bear, qui est aussi un groupe expérimental assez reconnu. C'est un groupe d'Angleterre, je ne sais pas si vous...
Peut-être, oui.
Et eux, ce qu'ils font, ils travaillent sur des enregistrements, des petites improvisations qu'ils font chez eux, avec des enregistrés sur cassette, de vieilles cassettes. Et en fait, eux, ils ont ce processus d'effectivement d'enregistrement, de répétition, de remise dans des contextes différents, et il joue aussi beaucoup sur l'improvisation, sur le public. Il y a tout un jeu avec qui est le musicien, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est toute sa place là-dessus. Et donc il nous montre quelque chose qui a rapport avec c'est quoi la persistance, c'est quoi le message dans les sons, et il raconte des histoires avec tous ces sons et ils le mettent, comment dire, ils le déploient avec une mise en scène, etc. Et peut-être que ça va vous paraître trop une forme impure, je sais pas. Et en fait, la question que je me pose là-dedans, c'est si on met le focus sur la contradiction qui oppose contenant et contenu, est-ce qu'on passe pas à côté de la question de l'essence, pour employer un gros mot?
Bon, il faudrait du temps, là, encore. Hein. Non, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, dont on se méfie, et que le haut-parleur, c'est un instrument de pouvoir. C'est aussi ce que disait François Bell. Les haut-parleurs, on en met dans des gares pour dire aux gens comment ils doivent se comporter et où ils doivent aller. avec un haut-parleur, on a un sentiment de pouvoir. Et on a un pouvoir particulier, et c'est le premier souvent qui se présente, c'est de casser les oreilles des autres et de leur imposer quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et c'est vrai que c'est une chose, quant à moi, contre laquelle je lutte beaucoup. Mais ça, c'est une affaire de chacun et de comment tout ça va être utilisé. Et pour répondre à un autre aspect de la question, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à se lever à point d'heure, voire ne pas se coucher, et ça pendant X nuits de suite, pour réussir enfin à faire le portrait d'une grive musicienne? Ça, je n'en sais rien. Mais le problème, c'est que je continue. C'est que j'y vais, et ça, je n'en sais rien. J'en sais rien du tout, ce qui me pousse à ça. Mais c'est une obsession. C'est une obsession. Voilà.